a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Galère, galère, bonjour. Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du mercredi 23 août. Il fait chaud dans notre studio et nous avons chaud au cœur de vous retrouver comme d'habitude. Alors aujourd'hui dans le studio Françoise, une invitée Barbara et moi-même Dominique et à la technique Angèle et peut-être Alex. Oui, oui, Angèle qui nous fait signe et Alex peut-être pas très loin. Donc voilà, l'équipe est au complet. Excusez-moi pour les plaisanteries idiotes sur la température, mais puisque tout le monde en parle, n'est-ce pas, pourquoi pas. Et puis profitons-en également pour aller nous rafraîchir le soir aux séances de ciné plein air ces jours-ci au musée d'histoire de la ville avec La Momie et au jardin du Pharaon avec West Side Story et Dirty Dancing. Donc un peu américain peut-être, mais quand même des valeurs sûres. Donc pour le programme, allez voir toujours le site de l'été marseillais sur le site de la ville de Marseille. En ce qui concerne notre émission, nous poursuivons notre exploration de textes intégraux courts, nouvelles et contes, avions-nous dit en début d'été, et aujourd'hui, en effet, des contes. Des contes, d'abord ceux de Marie Redonnet, une autrice contemporaine, dans le recueil « Doublure », de drôles d'histoires formulées dans une écriture blanche et plate, un peu comme des contes médiévaux, à propos de personnages quasi interchangeables avec leur doublure, justement, et comme un monde et des silhouettes en ombre chinoise, un peu décalées, sans épaisseur psychologique. Et puis, dans une deuxième partie, après notre pause musicale, dans une deuxième partie donc, des contes soufis d'un Orient lui aussi un peu simplifié et peuplé de silhouettes sorties des mille et une nuits, mais par un auteur évidemment très connu et reconnu du Moyen-Orient, Jalal ad-Din Rumi. Alors commençons avec Doublure. Marie Redonnet, qui est surtout connue en fait pour ses romans, par exemple Splendide Hôtel et La Femme au Colt, Marie Redonnet donne souvent la priorité à des personnages féminins. Dans Doublure, une de ses premières œuvres d'ailleurs, publiée en 1986, il y a des histoires d'hommes, des histoires de femmes aussi, et tous ces personnages sont, comme nous l'avons dit, un peu décalés et un peu bizarres. Nous allons voir pour commencer, ou plutôt écouter pour commencer, l'histoire de Lim.
Lim avait passé toute son enfance à jouer dans le cimetière de son village. Son père était fossoyeur. Lim l'aidait à creuser les tombes. Mais en grandissant, Lim allait de moins en moins au cimetière. Son père s'épuisait tout seul à creuser les tombes. Un hiver, il attrapa froid et ne s'en remit pas. Il continuait pourtant de creuser. On l'entendait creuser à l'autre bout du cimetière. Un matin, on le retrouva mort, sa pelle à la main. Il venait de creuser sa dernière tombe, on l'y enterra. Lim partit très loin dans une colonie encore peu exploitée. Dès son arrivée, il rencontra le père Croce, qui cherchait un associé pour sa mine. Lim n'avait pas envie de travailler dans une mine, mais le père Croce lui était sympathique. Il accepta son offre. La mine produisait un des plus mauvais minerais de la colonie. Le père Croce n'avait jamais voulu y renoncer. Il s'était acharné toute sa vie dans l'espoir de trouver un meilleur minerai. Depuis quelque temps, il était malade et n'arrivait plus à exploiter sa mine tout seul. C'est pourquoi il avait engagé Lim. La mine était pire que Lim l'avait imaginé. Elle était entourée d'un grand champ inculte qui n'avait jamais été exploité. Lim se mit aussitôt au travail. Le père Croce alla trop mal pour l'aider. Il ne mangeait presque plus. Lim voulait qu'il aille à l'hôpital se faire soigner, mais le père Croce ne voulait pas quitter sa mine. Lim s'occupa de lui jusqu'à la fin. Touché par son dévouement, le père Croce lui légua la mine. Le lendemain de sa mort, Lim creusa une tombe au milieu du champ et il y enterra le père Croce. Ne sachant pas quoi faire de sa mine, Lim la mit en vente. Aucun acheteur ne se présenta. Alors, Lim se remit à creuser. Le peu de minerai qu'il extrayait suffisait à peine à le faire vivre. Il continuait pourtant. Un jour qu'il creusait comme d'habitude, il rencontra une nouvelle couche de minerai. C'était du très bon minerai, celui que le père Croce avait en vain cherché toute sa vie. Lim se rendit aussitôt à la ville. Son minerai était un des meilleurs de la colonie. Lim avait repris espoir. Il faisait des projets, il allait pouvoir agrandir la mine, embaucher des ouvriers. Sa joie ne dura pas longtemps. Il avait recommencé à avoir des difficultés à creuser. La roche redevenait dure et le minerai ne valait plus rien. Les conditions d'extraction n'avaient jamais été aussi pénibles. Lim s'épuisait à creuser. Il était devenu aussi entêté que le père Croce. Pour rien au monde maintenant, il n'aurait abandonné sa mine. Puisqu'un bon filot était apparu une fois, Lim était sûr qu'il y en avait d'autres. Il ne fallait surtout pas abandonner. Lim ne pensait plus qu'à sa mine. À force de creuser, il tomba malade. Sa maladie s'aggrava rapidement. Bientôt, Lim se sentit trop mal pour continuer à exploiter seul sa mine. Pour la deuxième fois, il décida de la mettre en vente. Il n'y avait toujours pas d'acquéreur. Lim allait se résigner à tout abandonner quand il rencontra un jeune homme, Nim, qui débarquait du continent et qui cherchait du travail. Nim et Lim sympathisèrent tout de suite. Lim proposa à Nim de devenir son associé. Il lui avait raconté l'histoire de la mine. Il n'avait pas caché les problèmes, mais il avait surtout parlé de ses espoirs. Nim se laissa tenter et il suivit Lim. Ils se mirent à creuser, mais Lim ne se rétablissait pas. Il devenait trop faible pour continuer à creuser. Nim était vigoureux. Il creusait pour deux. Lim le regardait travailler, cela le réconfortait. Pourtant, le minerai était toujours d'aussi mauvaise qualité. Il devenait même de plus en plus rare. Certains jours, Nim n'extrayait plus que des cailloux et de la terre. On aurait dit que le minerai disparaissait peu à peu. C'était bien ce qui se passait. En quelques mois, le minerai disparut complètement. La mine du père Croce avait tout l'air d'être épuisée. Pourtant, Lim n'avait pas perdu espoir. Il avait son idée. Il allait fermer le puits. Nim creuserait là où le père Croce n'avait jamais creusé, dans le grand champ inculte qui entourait la mine. Nim transporta la tombe du père Croce au fond de la vieille mine qui ne servait plus à rien. Puis il commença à creuser dans le champ. Toute la terre qu'il extrayait, il la jetait au fond du puits abandonné. Nim l'encourageait. Il était de plus en plus pâle et maigre. Au bout de longs mois de travail, Nim rencontra soudain un petit filon. Le minerai était d'une excellente qualité. Lim et Nim s'embrassèrent de joie. Nim partit aussitôt à la ville vendre le minerai. Lim mourut pendant son absence. Il léguait tout à Nim. Nim enterra Lim avec le père Croce dans la vieille mine abandonnée. Bientôt, l'ancien puits n'existerait plus. Il disparaîtrait sous la terre du champ. Et à la place du champ, il y aurait le nouveau puits. Déjà, il s'approfondissait, s'élargissait. La nouvelle mine promettait beaucoup. Le minerai était bon. Nim avait engagé plusieurs ouvriers pour l'aider à creuser. Le gisement était important. Nim était en train de devenir riche grâce au champ du père Croce.
Donc, c'était l'histoire du père Croce, bien sûr, mais surtout de Lim et Nim. Alors, c'était l'histoire de Lim et Nim, et ensuite, il y a des tas d'autres histoires du même type. Et par exemple, on va maintenant lire l'histoire de l'âme. L'âme avec d'autres, bien sûr. D'autres personnages qui sont peut-être des doublures. Écoutons Barbara.
L'âme. L'âme fut élevée à l'orphelinat chez les sœurs. Elle n'avait qu'un désir, quitter l'orphelinat. Quand elle eut l'âge de travailler, les sœurs la laissèrent partir. L'âme s'engagea comme serveuse dans un bar du port. C'était un pauvre bar, fréquenté surtout par des marins étrangers. L'âme aimait bien le port. Son comptoir était propre et ses clients bien servis. Elle n'était pas bavarde. Comme elle travaillait dur et qu'elle ne faisait pas d'histoire, les marins la respectaient. Un jour, le patron du bar engagea une chanteuse, Lem, qui revenait des colonies. Elle avait accepté, sans discuter, de chanter pour un maigre salaire. L'âme se demandait comment l'âme avait pu échouer dans ce bar. Chaque soir, l'âme chantait. Les marins demandaient toujours une autre chanson. L'âme aimait tellement chanter qu'elle acceptait de chanter très tard pour les marins. Les marins amenaient d'autres marins. Le patron n'avait jamais vu son petit bar aussi plein. Pourtant, l'âme n'avait pas une belle voix et ses chansons étaient de pauvres chansons des ports. Mais elle savait toucher le cœur des marins. L'âme aussi écoutait chanter l'âme. Comme les marins, elle l'aurait écouté chanter toute la nuit. L'âme lui racontait sa vie aux colonies, le grand succès qu'elle avait eu là-bas. Elle disait à l'âme qu'elle aussi devrait partir. Mais l'âme préférait rester auprès de l'âme. Elle apprenait ses chansons, elle les fredonnait du matin au soir, conservant les marins. À force de chanter et d'écouter l'âme chanter, l'âme était parvenue à chanter comme l'âme. Elle avait pris jusqu'au défaut de sa voix. L'âme fut bouleversée en l'écoutant chanter. C'était comme si elle écoutait sa propre voix. L'âme avait mis assez d'argent de côté pour se payer son voyage aux colonies. Elle avait compris qu'elle décevrait l'âme si elle restait. L'âme lui donna l'adresse du bar où elle avait toujours chanté. Elle lui remit aussi une lettre pour son ancien patron. Arrivée à la colonie, l'âme fut aussitôt engagée comme chanteuse. Après avoir lu la lettre, l'ancien patron de l'âme avait demandé à l'âme de chanter. En l'écoutant, il avait été bouleversé, tellement sa voix lui rappelait celle de l'âme. Son bar était vide depuis le départ de la chanteuse. Maintenant que l'âme était là, les marins allaient revenir. C'était une chance que l'arrivée de l'âme. Les marins vinrent nombreux l'écouter chanter. Elle chantait les chansons de l'âme avec la voix de l'âme. Les marins étaient émus en l'applaudissant. L'âme avait écrit plusieurs lettres à l'âme pour lui apprendre ses succès. Mais elle n'avait pas reçu de réponse. Quelque temps plus tard, elle apprit que l'âme était morte. Elle pleura longtemps. Jamais encore elle n'avait aussi bien chanté. Elle devenait l'idole des marins. Mais elle avait envie de reconnaître d'autres ports et de chanter dans d'autres bars. L'âme commençait donc sa tournée des autres ports de la colonie. Tout de suite, elle fut déçue par la façon dont elle était accueillie. Elle chantait toujours les mêmes chansons. Pourtant, on l'écoutait à peine. Les marins continuaient de parler et de rire pendant qu'elle chantait. Ses chansons ne les touchaient pas. Les patrons des bars ne cherchaient pas à la retenir. Leurs recettes baissaient dès qu'ils l'engageaient. L'âme chantait pour presque rien dans des bars de plus en plus misérables. Elle ne comprenait pas pourquoi les marins n'aimaient pas ses chansons. Elle les chantait aussi bien qu'avant. L'âme allait de bar en bar et de port en port. Plus un patron ne voulait l'engager comme chanteuse. Alors elle redevint serveuse. Tout l'argent qu'elle gagnait, elle l'économisait pour revenir au pays. Après de longues années, l'âme s'en retourna enfin sur le continent. Elle retrouva le bar où elle avait rencontré l'âme. Il y avait une autre chanteuse, Leg. Sa voix ne ressemblait pas à celle de l'âme. Elle chantait des chansons que l'âme n'avait jamais chantées. Les marins étaient toujours aussi nombreux. Ils écoutaient Leg chanter. L'âme était redevenue serveuse. Elle aussi écoutait chanter Leg. Elle admirait comme elle n'avait jamais admiré l'âme. Leg avait une belle voix. On venait l'écouter chanter des villes voisines. Sa réputation grandissait, les journaux commençaient à parler d'elle. On lui proposa un contrat. Elle se laissa tenter et quitta le bar pour aller chanter dans un théâtre de la capitale. Son succès fut immédiat. Le public lui fit fête. Le petit bar du port était vide depuis les départs de l'aigle. Le patron ne savait comment faire revenir les marins. L'âme lui proposa de chanter. Elle chantait toujours des chansons de l'âme avec la loi de l'âme. Les marins reprirent le chemin du bar. L'âme leur rappelait l'aime. Ils oublièrent l'aigle et ils applaudirent l'âme. L'âme retrouvait le succès qu'elle avait connu dans le premier bar de la colonie. Elle redevenait l'idole des marins, mais en secret, l'âme admirait toujours l'aigle. Elle lisait tout ce qu'on écrivait sur elle. Elle était même allée plusieurs fois l'écouter chanter à la capitale. Il n'y avait plus que la voix de l'aigle qui comptait pour elle. Chaque soir, dans sa chambre, elle essayait de l'imiter. La voix de l'aigle était inimitable. L'âme chantait toujours comme l'aime, mais avec la voix de l'aime, l'âme chantait les chansons de l'aigle. C'était ces chansons-là qu'elle aimait maintenant. Les marins ne la reconnaissaient pas. Ils lui demandèrent de chanter de nouveau les chansons de l'aime. Les chansons de l'aigle, avec la loi de l'aime, ne les touchaient pas. Mais l'âme ne voulait plus chanter les chansons de l'aime. Elle refusa d'obéir aux marins. Alors les marins cessèrent de l'écouter chanter et l'âme redevint serveuse. Jusqu'à sa mort, l'âme chanta sur les quais du port. Elle chantait les chansons de l'aigle avec la voix de l'aime. Cela faisait longtemps que les marins ne l'écoutaient plus. Quand ils s'apercevaient, ils haussaient les épaules et passaient leur chemin. Ceux qui ne la connaissaient pas encore lui donnaient une pièce comme à une mendiante. L'âme les suivait en chantant. Les marins riaient de cette vieille femme qu'ils prenaient pour une folle.
Grandeur et décadence de vedette, grandeur et décadence, ou succès et décadence, c'est un peu toujours les mêmes propos de Marie Redonnet dans ses contes, avec ou sans morale. Vous l'avez compris, on ne garde que le fil directeur de la vie des personnages. On s'intéresse donc à ce qui leur arrive dans ce, on pourrait dire, cette espèce de cycle de grandeur et décadence, mais sans véritable épaisseur psychologique. Alors, allons, par exemple, maintenant, retrouver Syl. Syl et d'autres personnages, bien sûr, toujours un peu doublure les uns des autres. Syl avait vécu heureuse chez ses parents adoptifs. Elle aimait leur fils, Sig, comme si c'était son frère. Syl et Sig avaient le même âge. Syl imitait Sig en tout. On aurait presque pu les prendre pour deux jumeaux, tellement ils se ressemblaient. Mais en grandissant, Sig se détacha de Syl. Syl n'en souffrit pas, elle aussi changeait. À 16 ans, Syl entra en apprentissage dans une maison de couture. Elle aimait faire les robes, elle aimait habiller les clientes. Sig ne s'occupait plus que de motos et il venait d'en acheter une. Il faisait de grandes randonnées et il partait longtemps pour de longues excursions avec cette moto. Syl, pendant ce temps, devenait la couturière la plus demandée de la maison de couture où elle travaillait. Elle ne se lassait pas d'admirer un mannequin, Cyr, qui présentait les collections. C'était toujours elle qui habillait Cyr. Et Cyr apprenait à Syl à marcher comme les mannequins pendant les défilés. Syl s'était fait teindre les cheveux comme Cyr. Elle se coiffait comme elle. Cyr riait en voyant que Syl lui ressemblait de plus en plus. Un jour, Sig eut un grave accident de moto. Syl allait le voir à l'hôpital. Il ne la reconnut pas tellement elle avait changé. À chaque fois qu'elle allait le voir, il lui posait des questions sur sa vie et elle ne lui parlait que de Cyr et de sa vie nouvelle. Pendant ce temps, Cyr s'était attachée à Syl. Elle voulait que Syl devienne mannequin comme elle. Syl suivit des cours, elle s'y fit remarquer. Elle ne tarda pas à être engagée comme mannequin. Cyr était ravie. Désormais, elles allaient pouvoir travailler ensemble. Leur ressemblance intriguait et séduisait. Des couturiers les engagèrent, toutes les deux à la fois. Les clientes, les journalistes, souvent les confondaient. Leur succès grandissait. Cyr ne travaillait plus dans la petite maison de couture où elle avait rencontré Syl. Avec Syl, elle travaillait pour de grandes maisons. Et aux collections, leurs modèles étaient toujours les plus applaudis. Elles étaient appréciées également et toujours inséparables. Sig était sorti de l'hôpital. Syl lui présenta Cyr, dont il avait tant entendu parler. Il en tomba aussitôt amoureux. Et peu de temps après, ils se mariaient. Un an plus tard, ils eurent une petite fille, Sol. Cyr avait abandonné son métier de mannequin pour se consacrer à Sig et à Sol. Quant à Syl, elle continuait, mais elle se sentait mal à l'aise dans les modèles qu'elle présentait. Elle était moins applaudie, sa réputation baissait. Elle voulait abandonner. Cyr était tombé gravement malade à la naissance de Sol et aucun médecin n'avait vraiment réussi à la guérir. Elle mourut et Sig en fut inconsolable. Il abandonna Sol à la garde d'un vieux parent. Il se remit à faire de la moto et partit pour de longs voyages. Syl n'avait pas revu Sig depuis la mort de Cyr. Elle était redevenue couturière. Elle s'était acheté un petit atelier personnel et elle habillait quelques clientes anciennes qui appréciaient toujours son travail. Elle avait beaucoup changé, elle ne ressemblait plus à Cyr. Elle avait repris son ancienne coiffure, elle ne se faisait plus teindre les cheveux. Par hasard, un jour, en feuilletant le journal, elle apprit que Sig était devenu champion de moto. Il avait gagné beaucoup de courses. À force de lire des articles sur Sig, Syl eut envie de le revoir. Elle alla assister à ses courses. Sig ne la reconnut pas tout de suite, mais il fut heureux de la revoir. Et ils prirent l'habitude de se rencontrer sans jamais parler de Cyr. Syl avait demandé à Sig la permission d'élever Sol. Elle adorait Sol. En grandissant, Sol ressemblait de plus en plus à Cyr. Syl lui cousait ses plus belles robes et elle voulait que Sol soit la plus belle. Sig avait repris ses courses de moto. Syl ne vivait plus que pour Sol. Sol voulut devenir mannequin. Elle passait ses journées à essayer les robes que lui faisait Syl. Puis ce furent les premiers défilés, les premières collections. Très vite, elle connut le succès. Elle devenait un des mannequins les plus demandés, bien plus encore que ne l'avaient été Syl et Cyr. Elle allait se marier quand brutalement elle eut un accident et mourut. Syl fut inconsolable. Elle essayait d'oublier en cousant du matin au soir. Bien des années passèrent, quand un jour, Syl et Sig se rencontrèrent à la porte du cimetière. Ils ne se reconnurent qu'à peine, tellement tous deux avaient vieilli. Mais ils furent heureux de se revoir. Sig avait abandonné la moto et Syl commençait à être fatigué de coudre. Sig lui proposa de se retirer avec lui dans une petite maison au bord de la mer. C'était une maison isolée, au bout d'une presqu'île. Les rochers étaient pleins de coquillages. Syl et Sig les ramassaient. Ils se nourrissaient de ces coquillages, ils ne se quittaient jamais. Un jour, surpris par la marée, ils n'arrivèrent pas à regagner la plage à temps. Et on ne retrouva jamais leur corps. Voilà, c'était la disparition de Sig et Syl. Alors, l'histoire de Sig et Syl, bien sûr, ça finit au bord de l'océan. Les côtes océaniques, j'en reviens, c'est un univers bien différent du nôtre. C'est un univers plutôt vert et gris, un univers de brume, et c'est bien différent des couleurs brutales de la Méditerranée et du désert. Donc, ces mondes un peu opposés, finalement, de l'océan et de la Méditerranée, on va les opposer aussi dans nos lectures. On va maintenant, après une pause musicale, prendre des histoires de l'Orient méditerranéen pour vous les raconter. Donc, on retrouvera, après la pause musicale, les contes soufis de Jalal ad-Din Rumi. Mais donc, avant, nous allons écouter de la musique soufie. De la musique soufie, précisément à cheval entre la tradition et le contemporain.
Sure.
la musique soufie, je vous parlais tout à l'heure des couleurs brutales de la Méditerranée. Ben, la musique soufie, c'est pas une musique brutale, c'est plutôt une musique de l'élévation ou du rêve ou de la méditation. Enfin bref, la musique des derviches tourneurs. On avait presque envie de se mettre à tourner avec eux, là, avec cette musique répétitive qui nous fait partir bien loin. En tout cas, pardon. Elle est là pour nous introduire donc les contes soufis de Jalal Uddin Rumi. Et même si vous ne le connaissez pas, vous en avez sûrement entendu parler, c'est ce grand poète, philosophe, mystique du Moyen-Orient du XIIIe siècle, de culture perse et byzantine à la fois, dans des terres ottomanes qui n'étaient pas encore constituées en empire. Donc les contes qu'il rassemble, les contes qu'il met à l'écrit, mais qui sont souvent des histoires traditionnelles, ces contes aujourd'hui, on en a choisi un certain nombre, qui appartiennent donc au recueil écrit par Jalal Uddin Rumi. Ce recueil, Masnavi, qui est, enfin bon, je ne garantis pas la prononciation, excusez-moi, mais qui est son œuvre la plus connue, et qui est donc un ensemble de commentaires qui fait référence à la fois à des histoires populaires et à des contes ésotériques qui sont comme des commentaires de versets du Coran. Donc Jalal Uddin Rumi, il a fait l'objet en 2007 d'une grande célébration internationale organisée par l'UNESCO, puisque c'était le 8e centenaire de sa naissance. Et c'était organisé dans la ville de Konya, où il a son tombeau, en présence de très nombreuses confréries soufis. On va donc écouter d'abord une histoire typique de ces confréries, qui sont précisément des confréries ésotériques. La première histoire, Le prêtre et le sage, c'est Françoise qui va nous la lire.
Un sage demanda un jour à un vieux prêtre: « De toi et de ta barbe, lequel des deux est le plus âgé ?» Le prêtre répondit: « Je suis né avant ma barbe et j'ai connu l'univers avant elle. »«
Ta barbe est blanche, reprit le sage, elle a abandonné son état d'origine, mais toi, tu n'as pas encore changé ta mauvaise nature. Bien que ta barbe soit née après toi, elle t'a devancé. Toi, tu es encore dans la sécheresse du désir, dans la sécheresse du moi et du nous. Tu es toujours dans la même disposition d'esprit qu'à ta naissance. Tu n'as pas fait un pas. Toute ta vie, tu es resté dans un four ardent, mais tu es demeuré en ton état de boue. Tu es mu par le vent de tes désirs, mais tu es fixé au sol comme une paille desséchée. Comme le peuple de Moïse, tu es resté dans le désert durant 40 ans. Tu cours du matin au soir, mais tu reviens toujours au même point. Tant que tu demeureras amoureux du veau d'or, ton salut sera impossible, quand bien même tu t'y consacrerais pendant 3 siècles. Dieu t'a comblé de ses faveurs, mais comme ta nature est celle d'un bœuf, l'amour du veau a remplacé l'amour de la vérité dans ton cœur. Interroge donc ton corps et ne crois pas qu'il soit sans langue. Peut-être a-t-il à sa disposition des centaines de langages. Tu cherches jour et nuit une légende, mais ton corps t'en raconte une. Il en va comme pour l'été. C'est grâce à lui que pousse le coton, mais le coton reste quand l'été est oublié. Il en va comme de la glace, elle surgit de l'hiver, la glace reste quand l'hiver a disparu. De même, chacun des membres de ton corps te raconte les faveurs de Dieu. Si l'ivresse et les jeux de l'amour n'existaient pas, pas une femme ne serait tombée enceinte. Sans printemps, aucun jardin ne donne de fruits. Les femmes enceintes et les enfants qu'on tient sur les genoux sont des signes du printemps et des témoins des jeux de l'amour. Chaque arbre allait son enfant, car comme Marie, il est tombé enceinte d'un sultan inconnu. Ô prêtre, commande à ton chagrin de n'être point oublieux des faveurs qu'il a reçues. S'il n'y avait pas en toi un perpétuel printemps, que contiendrait donc le grenier de ton corps ? Ton corps est un monceau de roses et tes idées sont l'eau de ces roses. Mais quelle étrange chose ! L'eau de rose renie les roses. L'obstination et le blasphème sont le propre du chimpanzé, mais la gratitude et la contemplation forment le chemin du prophète. Si cette naissance ne s'était pas produite lors de l'éclipse de lune, il y aurait moins de philosophes égarés dans cette nuit. Bien des hommes sensés furent victimes de cet égarement, et ils ont vu une montagne sur leur nez.
Alors, ne voyez pas de montagne sur votre nez, effectivement, ça vous boucherait l'horizon. Ce sont bien des histoires ésotériques, hein, nous l'avons dit, des mystères résolus ou non résolus souvent, mais aussi des anecdotes sur la vie quotidienne. Alors, vous savez, un petit peu comme dans les fables de toutes les civilisations, il y a des histoires d'animaux. Et puis là, il vient d'y avoir une référence à l'eau de rose. Donc, je vais vous raconter une histoire de perroquet, parce que quand même, Jalal Uddin Rumi aime beaucoup les perroquets. Il y a souvent des histoires de perroquets. Je vais donc vous raconter une histoire de perroquet et d'eau de rose, parce que j'ai quand même trouvé que c'était particulièrement savoureux. Excusez-moi, je cherche la page. Voilà, le perroquet. Un épicier possédait un perroquet dont la voix était agréable et le langage amusant. Non seulement il gardait la boutique, mais il distrayait la clientèle de son verbiage, car il parlait comme un être humain et savait chanter comme un perroquet. Un jour, l'épicier le laissa dans la boutique et s'en fut chez lui. Soudain, le chat de l'épicier aperçut une souris et se lança brusquement à sa poursuite. Le perroquet eut si peur qu'il en perdit la raison. Il se mit à voler de tous côtés et finit par renverser une bouteille d'huile de rose. À son retour, l'épicier, constatant le désordre qui régnait dans sa boutique et voyant la bouteille brisée, fut pris d'une grande colère. Comprenant que son perroquet était la cause de tout ceci, il lui asséna quelques bons coups sur la tête, lui faisant perdre de nombreuses plumes. À la suite de cet incident, le perroquet cessa brusquement de parler. L'épicier fut alors pris d'un grand regret. Il s'en arracha les cheveux et la barbe. Il offrit des aumônes aux pauvres du quartier, afin que son perroquet recouvre la parole. Ses larmes ne cessèrent de couler durant 3 jours et 3 nuits. Il se lamentait en disant « Un nuage est venu obscurcir le soleil de ma subsistance ». Le troisième jour, entra dans la boutique un homme chauve, dont le crâne luisait comme un bol, et comme aurait pu le faire aussi la tête du perroquet. Alors, en le voyant, le perroquet s'écria « Oh, pauvre malheureux, pauvre tête blessée, d'où te vient cette calvitie? Tu as l'air triste, comme si tu avais renversé une bouteille d'huile de rose. » Et toute la clientèle présente dans le magasin de s'esclaffer. Deux roseaux se nourrissent de la même eau, mais l'un d'eux est canne à sucre et l'autre est vide. Deux insectes se nourrissent de la même fleur, mais l'un d'eux produit le miel et l'autre le poison. Ceux qui ne reconnaissent pas les hommes de Dieu disent « Ce sont des hommes comme nous, ils mangent et dorment tout comme nous. » Mais l'eau douce et l'eau amère, bien qu'ayant même apparence, sont bien différentes pour qui les a goûtées. À Marseille, on préfère l'eau avec un peu de pastis dedans. Bref, on va revenir à une autre histoire de Jalal Uddin Rumi, puisque on a déjà commencé les histoires d'animaux. On va se rendre compte qu'il y a dans les contes de Jalal Uddin Rumi des fables, des vraies fables, comme au fond celle d'Ésope ou de La Fontaine. Toutes les fables de toutes les civilisations sont un peu cousines entre elles. Donc nous allons demander à Françoise de nous raconter la fable du lion qui s'appelle Le Puits du Lion.
Les animaux vivaient tous dans la crainte du lion. Les grandes forêts et les vastes prairies leur paraissaient comme trop petites. Ils se concertèrent et allèrent rendre visite au lion. Ils lui dirent « Cesse de nous pourchasser. Chaque jour, l'un de nous se sacrifiera pour devenir ta nourriture. Ainsi, l'herbe que nous mangeons et l'eau que nous buvons n'auront plus cette amertume que nous leur trouvons. » Le lion répondit « Si ceci n'est pas une ruse de votre part, et si vous tenez cette promesse, alors ceci me convient parfaitement. Je ne connais que trop les ruses des hommes, et le prophète a dit « Le fidèle ne répète pas la même erreur 2 fois. » « Oh, sage !» dirent les animaux, « il est vain de vouloir se protéger contre le destin. Ne sors pas tes griffes contre lui. Prends patience et soumets-toi aux décisions de Dieu afin qu'il te protège. »« Ce que vous dites est juste, » dit le lion, « mais il vaut mieux travailler que prendre patience car le prophète a dit « il est préférable d'attacher son chameau. » les animaux. Les créatures travaillent pour le boucher. Il n'y a rien de mieux que la soumission. Regarde le nourrisson. Pour lui, ses pieds et ses mains n'existent pas, car ce sont les épaules de son père qui le portent. Mais quand il grandit, c'est la vigueur de ses pieds qui l'oblige à se donner la peine de marcher. C'est vrai, reconnut le lion. Mais pourquoi boiter quand nous avons des pieds ? Si le maître de maison tend la hache à son serviteur, celui-ci comprend ce qu'il doit faire. De la même manière, Dieu nous a pourvus de mains et de pieds. Se soumettre avant de parvenir à ses côtés me paraît une mauvaise chose, car dormir n'est profitable qu'à l'ombre d'un arbre fruitier. Ainsi, le vent fait tomber les fruits qui sont nécessaires. Dormir au milieu d'un chemin où passent les bandits est dangereux. La patience n'a de valeur qu'une fois que l'on a semé la graine. Les animaux répondirent. Depuis l'éternité, des milliers d'hommes échouent dans leurs entreprises, car si une chose n'est pas décidée dans l'éternité, elle ne peut pas se réaliser. Aucune précaution n'est utile si Dieu n'a pas donné son accord. Travailler et acquérir des biens ne doit pas être un souci pour les créatures. Ainsi, chacune des parties développa ses idées par maints arguments, mais finalement, le renard, la gazelle, le lapin et le chacal réussirent à convaincre le lion. Donc, chaque jour, un animal se présentait au lion et celui-ci n'avait plus qu'à se préoccuper de la chasse. Les animaux, sans qu'il soit besoin de les contraindre, respectaient leur engagement. Quand vint le tour du lapin, celui-ci se mit à se lamenter. Les autres animaux lui dirent « Tous les autres ont tenu parole, à ton tour, rends-toi au plus vite devant le lion et n'essaie pas de ruser avec lui. » Le lapin leur dit « Oh, mes amis, donnez-moi un peu de temps afin que mes ruses vous libèrent de ce joug. Ceci vous restera acquis, à vous et à vos enfants. » « Dis-nous quelle est ta ruse ?» dirent les animaux. « C'est une ruse, » dit le lapin. « Quand on parle devant un miroir, la buée trouble le reflet. » Ainsi, le lapin ne se pressa pas pour aller au-devant du lion. Pendant ce temps, le lion rugissait, plein d'impatience et de colère. Il se disait « Ils m'ont abusé de leurs promesses. Pour les avoir écoutés, me voici sur le chemin de la ruine. Me voici blessé par une épée de bois. Mais à compter d'aujourd'hui, je ne les écouterai plus. » À la nuit tombante, le lapin se rendit chez le lion. Quand il le vit arriver, le lion, sous l'emprise de la colère, était comme une boule de feu. Sans montrer de crainte, le lapin s'approcha de lui, l'air amer et contrarié. « Car des manières timides vous font soupçonner de culpabilité. » Le lion lui dit « J'ai déjà renversé les bœufs et les éléphants. Comment se peut-il qu'un lapin ose me narguer ?» Le lapin lui dit « Permets-moi de m'expliquer. J'ai eu bien des difficultés pour parvenir jusqu'ici. Je suis parti dès l'aube pour te rejoindre. J'étais même parti avec un ami. Mais sur le chemin, nous avons été pris en chasse par un autre lion. Nous lui avons dit « Nous sommes les serviteurs d'un sultan. » Mais lui a rugi « Qui est ce sultan ? Peut-il y avoir d'autres sultans que moi ?» Nous l'avons supplié longtemps et finalement, il a gardé mon ami, qui était plus beau et plus gras que moi. Voici que désormais, un autre lion s'est mis en travers de nos arrangements. Si tu souhaites que nous tenions nos promesses, il te faut nous dégager la route et détruire cet ennemi, car il n'a aucune crainte de toi. Où est-il ? Fit le lion. Vas-y, montre-moi le chemin. Le lapin conduisit le lion vers un puits qu'il avait repéré auparavant. Quand ils arrivèrent aux abords du puits, le lapin resta en arrière. Le lion lui dit « Pourquoi t'arrêtes-tu ? Passe devant. »« J'ai peur, » dit le lapin. « Vois comme mon visage a blêmi. »« De quoi as-tu peur ? » demanda le lion. Le lapin répondit « L'autre lion habite dans ce puits. »« Avance, » dit le lion. « Jette juste un coup d'œil pour vérifier s'il est bien là. »« Je n'oserai jamais, » dit le lapin, « si je ne suis pas protégé par tes bras. » Le lion serra donc le lapin contre lui et regarda dans le puits. Il vit son reflet et celui du lapin. Prenant ce reflet pour un autre lion et un autre lapin, il laissa le lapin de côté et se jeta dans le puits. Voici le sort de ceux qui écoutent les paroles de leurs ennemis. Le lion a pris son reflet pour un ennemi et a dégainé contre lui-même l'épée de la mort.
Voilà, là c'est une vraie morale d'un vrai conte. Et donc la mort du lion, c'est la libération des animaux. On aimerait bien que se libérer des tyrans soit aussi facile que nous le dit l'histoire du lion et du lapin. Enfin, dans le registre des histoires éternelles, il y a celle de l'homme qui rencontre la mort, où vous savez, une histoire très fréquente en Orient, l'histoire de cet homme à qui on prédit qu'il va rencontrer la mort. La version de Jalaluddin Rumi est très courte et très simple. Donc on va la lire et puis on continuera avec une histoire sur la vieillesse qui est pas mal non plus. Alors voyons d'abord l'histoire de Salomon et Azraël. De bon matin, un homme vint se présenter au palais du prophète Salomon, le visage blême et les lèvres bleues de peur. Salomon lui demanda « Mais pourquoi es-tu dans cet état ?» Et l'homme lui répondit « Azraël, l'ange de la mort, m'a jeté un regard impressionnant, si plein de colère. Mais tu sais, je ne sais pas comment faire. Je t'en supplie, commande au vent de m'emporter en Inde pour le salut de mon corps et celui de mon âme. » Salomon commanda donc au vent de faire ce que l'homme lui demandait, et celui-ci s'envola vers l'Inde. Et le lendemain, le prophète demanda à Azraël, « Mais pourquoi as-tu jeté un regard si inquiétant à cet homme qui est un bon fidèle? Tu lui as fait si peur qu'il a dû quitter le pays. » Et Azraël lui répondit, « Mais il a mal interprété mon regard. Je ne l'ai pas regardé avec colère, je l'ai regardé avec étonnement. En effet, Dieu m'avait ordonné d'aller prendre sa vie en Inde. Et je me suis dit, mais comment pourrait-il être ici alors qu'il faudrait des ailes pour se rendre en Inde, où je dois le rencontrer pour lui pendre la vie. » Voilà, donc c'est l'histoire de la rencontre. Qui fuis-tu, toi-même? C'est la chose impossible. Il vaut mieux placer sa confiance en la vérité. Alors la confiance en la vérité, je ne sais pas si c'est vraiment une chose possible. On va aller voir une autre petite histoire, je vous disais donc, non sur la mort quand même, mais sur la vieillesse. Et le titre c'est « 70 ans ». Un vieillard se rendit chez le médecin. Quand il lui eut expliqué que ses facultés intellectuelles déclinaient, le médecin répondit « Mais cela provient de ton grand âge. » « Mais ma vision, elle aussi, s'affaiblit. » « Mais c'est parce que tu es vieux. » « Et j'ai de grandes douleurs dans le dos. » « Mais cela n'est que l'effet de la vieillesse. » « Et je ne digère plus rien de ce que je mange. » « Ben, si ton estomac est faible, la responsabilité en revient aussi à ton grand âge. » « Et quand je respire, ma poitrine est comme oppressée. » « Ben, c'est normal, tu es vieux. » « Et la vieillesse apporte bien des maux. » Le vieillard alors se fâcha. « Espèce d'idiot, espèce de médecin imbécile, que signifient ces beaux discours? Finalement, tu ne connais rien à la science de la médecine, tu es plus ignorant qu'un âne. Dieu a créé des remèdes pour tous les maux, et toi, tu les ignores. Est-ce vraiment comme ça que tu pratiques ton métier ?» Alors le médecin répliqua, « Eh oui, tu as plus de 70 ans. C'est de là aussi que proviennent ta colère et tes propos amers. » Alors là, mes copines de lecture, vous voyez, ça les fait bien rire. Donc j'espère que ça vous fera rire aussi. Et on en revient à des morales et à des enseignements avec le perroquet, avec notre copain le perroquet, qui va cette fois-ci nous amener à une autre histoire avec Françoise, qui nous raconte une histoire qui s'appelle « La cage ». Le perroquet est peut-être dans « La cage ».
Un commerçant possédait un perroquet plein de dons. Un jour, il décida de partir en Inde et demanda à chacun quel cadeau il désirait qu'on lui rapporte du voyage. Quand il posa cette question au perroquet, celui-ci répondit « En Inde, il y a beaucoup de perroquets. Va les voir pour moi, décris-leur ma situation, cette cage. Dis-leur, mon perroquet pense à vous plein de nostalgie. Il vous salue. » Est-il juste qu'il soit prisonnier alors que vous voulez dans le jardin de roses? Il vous demande de penser à lui quand vous voletez, joyeux entre les fleurs. En arrivant en Inde, le commerçant se rendit en un lieu où il y avait des perroquets. Mais comme il leur transmettait les salutations de son propre perroquet, l'un des oiseaux tomba à terre sans vie.
Le commerçant fut très étonné et se dit « Cela est bien étrange, j'ai causé la mort d'un perroquet. Je n'aurais pas dû transmettre ce message. » Puis, quand il eut fini ses achats, il rentra chez lui, le cœur plein de joie. Il distribua les cadeaux promis à ses serviteurs et à ses femmes. Le perroquet lui demanda « Raconte-moi ce que tu as vu afin que je sois joyeux moi aussi. » À ces mots, le commerçant se mit à se lamenter et à exprimer ses regrets. « Dis-moi ce qui s'est passé, insista l'oiseau. D'où te vient ce chagrin ?» Le commerçant répondit « Lorsque j'ai transmis tes paroles à tes amis, l'un d'eux est tombé à terre sans vie. C'est pour cela que je suis triste. » À cet instant, le perroquet du commerçant tomba lui aussi dans sa cage inanimée. Le commerçant, plein de tristesse, s'écria « Oh, mon perroquet au langage suave, oh mon ami, que s'est-il donc passé ? Tu étais un oiseau tel que Salomon n'en avait jamais connu de semblable. J'ai perdu mon trésor. » Après avoir longtemps pleuré, le commerçant ouvrit la cage et jeta le perroquet par la fenêtre. Aussitôt, celui-ci s'envola et alla se percher sur une branche d'arbre. Le commerçant, encore plus étonné, lui dit « Explique-moi ce qui se passe. » Le perroquet répondit « Ce perroquet que tu as vu en Inde m'a expliqué le moyen de sortir de prison. Par son exemple, il m'a donné un conseil. Il a voulu me dire « Tu es en prison parce que tu parles. Fais donc le mort. Adieu, ô mon maître, maintenant je m'en vais. Toi aussi, un jour, tu rejoindras ta patrie. » Le commerçant lui dit « Que Dieu te salue. Toi aussi, tu m'as guidé. Cette aventure me suffit car mon esprit et mon âme ont pris leur part de ces événements. »
Donc voilà le chemin de la liberté. Enfin voici pour le perroquet le chemin de la liberté. On vous souhaite tous d'avancer bien sûr, toutes et tous, sur le chemin de la liberté. Ça sera peut-être pas aussi facile que pour le perroquet, mais enfin faire le mort, c'est un, je sais pas comment on dit, une ruse que pratiquent bien des animaux. Et c'est vrai que c'est amusant de voir comment Jalaluddin Rumi se sert de cette ruse, on pourrait dire classique chez les animaux, pour donner en effet un moyen de libération, un moyen d'évasion pour le perroquet et peut-être pour nous tous. Alors sortons de nos cages, libérons-nous, allons voler de nos ailes courtes ou longues. Vous savez, à Marseille, il y a pas mal de perroquets verts à collier. Paraît d'ailleurs que ces perroquets se répandent beaucoup dans les jardins. Et ils viennent d'Inde, comme disait Jalaluddin Rumi. L'Inde, c'était les terres étrangères en général à l'époque. Donc accueillons du mieux que nous pouvons ceux qui viennent d'Inde et d'ailleurs, ceux qui viennent justement des vastes ailleurs de la terre, qui ne sont pas toujours très hospitaliers. Soyons nous hospitaliers à ceux qui viennent d'ailleurs. Et puis écoutons encore un petit peu de musique soufie, cette fois-ci musique de flûte et d'oiseaux justement, pour faire le lien avec le perroquet. Et nous allons écouter quoi, 3-4 minutes de notre musique soufie, après je viendrai vous dire au revoir. Thank you. Pu vous laisser comme ça sur les ailes de la musique persane et des oiseaux qui l'accompagnent. Si vous avez fermé vos fenêtres à cause de la chaleur, ben voilà, vous aviez quelques oiseaux quand même à la maison. Je voulais vous dire que pour retrouver des images du monde oriental, même si en l'occurrence c'est celui du Maghreb, vous pouvez aller voir l'exposition Baïa à la Vieille Charité. Il y a aussi vraiment de quoi rêver et de quoi se retrouver sur les ailes de l'orientalisme. C'est une vraie révélation de dessin, de poterie, de création, peut-être d'art brut, mais avec un imaginaire absolument merveilleux. Donc, avec Baïa, on retrouve les musiques du Maghreb, au moins par des ouds et d'autres très beaux instruments prêtés par la Cité de la Musique de Paris. On retrouve sur ces peintures les oiseaux merveilleux de l'Orient. On retrouve des femmes qui sont dans leur rôle de femme et aussi dans leur rôle mythologique, enfin un petit peu dans les personnages des Mille et Une Nuits. Et pour ce que j'appelais tout à l'heure les couleurs brutales de la Méditerranée, ben on peut aller voir Les Herbes Sèches de Ceylan, le dernier film de Ceylan, par exemple à La Baleine qui rouvre aujourd'hui. Donc elles ont retrouvé nos petits cinémas dans les vacances, se sont terminés. Allez voir par exemple Les Herbes Sèches à La Baleine et puis comme on le disait tout à l'heure les films de ciné plein air. Donc à la semaine prochaine pour d'autres aventures. On va faire quelque chose de beaucoup plus prosaïque la semaine prochaine, hein. On va revenir à des histoires bien plus terre à terre, mais vous verrez, c'est la fin des vacances, donc je vous raconterai une histoire de fin de vacances. Et donc d'ici là, bon vent, bon plaisir, bonnes aventures culturelles, à bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika, malaika.